Bonjour et bienvenue à bord de ma mobylette cosmique. Aujourd'hui, nous sommes sur une drôle de route, la route vers l'au-delà, qui fut décrite de manière si précise par les Égyptiens dans le livre des morts qu'on a l'impression qu'ils y sont allés pour de bon. En tout cas, cette route, semée d'embûches, est une route de renaissance et de musique aussi. C'est par le chant que les prêtres guidaient l'âme du défunt, en psalmodiant des phrases qui ont pris valeur de formules magiques. C'est avec le sistre et la ménate, deux instruments de percussion, que le défunt va éloigner les mauvais esprits et c'est au son des flûtes qu'il va reconnaître le doux chant de ceux qu'il aime et qu'il a laissé sur terre. Jamais civilisation n'attacha autant d'importance à ses défunts, jamais musique ne fut plus proche des esprits auxquels elle était vouée. Le rituel de la mort, réservé au roi, va devenir, au cours des siècles, accessible à tous. La preuve qu'une démocratisation de la société égyptienne eut lieu en même temps qu'une décentralisation du pouvoir sous la tutelle de la capitale, Thèbes. Ce qui explique l'exceptionnelle longévité du peuple égyptien et ce qui fait sa grandeur. Musique maestro.
France Inter, les routes de la musique, André Manoukian.
Il suffit de faire 100 mètres sur la mobylette d'André pour arriver en Égypte, vivre des aventures extraordinaires.
C'est l'heure maintenant de repartir pour l'Égypte. Vous venez avec nous ?
Et on y retourne.
Il y a Dalida ?
Quoi, il y a Dalida ?
Dalida égyptienne.
Est-ce que vous connaissez d'autres chanteurs célèbres qui étaient égyptiens d'origine ? Patrick Bruel, il n'est pas égyptien du tout, lui. Et Claude François, vous connaissez Claude François ?
Oui,
l'Égyptien.
Il était né en Égypte.
Oh, on dirait pas.
Un peu blond pour un Égyptien, mais bon.
Oui, Dalida aussi était blonde.
Rassurez-nous, André, il n'y aura pas Dalida, pas Patrick Bruel et pas Claude François dans cette émission. Parce que vous aviez dit « musique maestro ».
Des taxis pour les galaxies et mon tapis.
Ce parfum de nos années mortes, ce qui peut frapper à ta porte, l'infinité de destin en opposant, et qu'est-ce qu'on en retient?
C'est un Zeneche.
Hein?
Une chambre de préparation.
Préparation pour quoi?
Pour entrer dans la vie éternelle.
Afin de permettre le passage vers la vie éternelle, les Égyptiens préparaient le corps du défunt. Et ils ne faisaient pas grand cas du cerveau. Durant le processus de momification, ils l'extrayaient par un trou à la base du nez et le remplaçaient par une cire fondue. Par contre, les viscères, le foie, la rate et les poumons étaient conservés dans des vases, les fameux vases canopes, du nom d'une ville du même nom dont l'emblème était une cruche. Quant au cœur, ils pensaient qu'il était le réceptacle de l'âme, la mémoire de tout ce qu'avait accompli le défunt. C'est pourquoi c'était le seul organe conservé dans la momie. Pour le prêtre, le cœur était le relais de transmission par lequel il guidait, avec ses incantations, l'âme du pharaon dans son cosmic trip. Mais pour ne pas être tributaire du seul pouvoir des prêtres, les pharaons, pas fous, vers 2400 avant Jésus-Christ, firent graver les incantations dans la pierre de leur tombe, et voilà comment les chambres mortuaires sont recouvertes de hiéroglyphes sacrés.
D'après les hiéroglyphes,
la mort n'est que le commencement.
Petit à petit, les textes sacrés se démocratisent. Après tout, tout le monde a le droit à la vie éternelle après la mort. Les pyramides royales perdent l'exclusivité des textes et dès la première période intermédiaire, vers 2200 avant Jésus-Christ, les particuliers s'approprient des bribes des textes sacrés qu'ils font inscrire à l'intérieur de leur sarcophage. Vers 1500 avant Jésus-Christ, cette fois-ci, toutes les formules sont compilées sur des rouleaux de papyrus que l'on va placer dans les sarcophages, dans des vases, dans des statuettes creuses représentant Osiris, le dieu de la résurrection. Parfois, on en glisse même des papyrus dans les bandelettes de la momie. Car ces papyrus ont le pouvoir magique des écritures qu'ils portent. Ils détiennent les informations indispensables qui vont guider le défunt dans l'au-delà. Ils lui indiquent à la fois tous les obstacles qu'il va affronter et surtout, ils lui indiquent la manière de les surmonter.
Vous avez un caillou dans votre chaussure ? Pas de problème, prenez un papyrus.
Le papyrus, comme son nom l'indique, est un nom bizarre qui n'est ni latin, ni français, ni grec. Ça vient du mot égyptien « pa pera », ce qui veut dire « pa la chose, pera » de la grande demeure, c'est-à-dire de Pharaon.
Le papyrus est rare et précieux. Et donc, il est magique, c'est scientifique. Vous voulez accéder aux terres éternelles ? Vous voulez survivre à la Toussaint ? Vous voulez séduire votre voisine ? La solution est là, dans ce papyrus à recette magique.
Breuvage d'amour. Prends un peu de pellicule de la tête d'un mort qui fut assassiné. 7 grains d'orge enterrés dans le tombeau d'un homme décédé. Ajoute à cela du sang de tique d'un chien noir. Un peu de sang du deuxième doigt de ta main gauche. Et ta semence. Broie cela en une masse compacte. Mets cela dans une coupe de vin et donne cela à boire à la femme.
Bref, il existe toutes sortes de papyrus.
Il y avait les papyrus littéraires. Et vous avez les livres religieux, les livres des morts.
Et aujourd'hui, est-ce que ça marche pareil avec les tablettes ?
Swing low, sweet chariot.
Coming for to carry me home.
Swing low, sweet chariot.
Coming for to carry me home.
Right now.
swing low, sweet chariot.
Coming for to carry me home.
Swing low, sweet chariot.
Coming for to carry me home.
I looked over Jordan, what did I see? Sweet chariot,
coming for to carry me
home. Swing low, chariot,
coming for to carry me home.
If you get there before I do,
coming for to carry me home.
Tell all of my friends I'm coming on too. Swing low, chariot.
Coming for to carry me home.
Oh, swing low, sweet chariot.
Coming for to carry me home.
Sometimes I'm up, sometimes I'm down. Sometimes I'm almost to the ground. Swing low, chariot.
Coming for to carry me home.
Swing low, chariot.
Coming for to carry me home.
Oh, swing low, chariot. Coming to carry me home. Swing low, chariot. Coming to carry me home. Swing low, sweet chariot.
Coming for to carry me home.
Swing low, sweet chariot.
Swing low, sweet chariot. Mais c'était la version magique de Sam Cooke. Les scribes qui les écrivent, ces papyrus magiques, deviennent l'élite intellectuelle du pays. Ils apprennent leur art et le transmettent dans une cour sacrée du temple. Et ils deviennent les instruments de la fortune des prêtres qui vendent leurs papyrus de plus en plus cher, vu que chaque Égyptien désormais veut posséder un papyrus pour assurer sa survie dans l'au-delà. La vie est courte, mais la mort dure l'éternité. Si on ne dispose pas d'une fortune suffisante pour se faire écrire un exemplaire, rien que pour soi, les prêtres ont prévu le coup. Ils en possèdent des stocks d'avance sur lesquels on note au dernier moment, à l'emplacement laissé à blanc, le nom de l'acquéreur. Ces exemplaires sont moins chers que ceux faits sur mesure. De même, si le mari et la femme n'ont pas assez d'argent pour en acquérir deux, un seul convient pour le couple.
Je dirais que c'est peut-être le livre des morts.
Le livre des morts? Vous êtes sûr de vouloir l'ouvrir?
Un livre.
On dénombre 189 chapitres du Livre des Morts, mais tous ne figurent pas forcément sur les papyrus. En fonction des choix du scribe, des préférences de leurs clients ou des différentes coutumes locales, chaque livre présente des variantes. Le Livre des Morts est à la fois un guide du routard avec des bons plans et une compilation de formules magiques protégeant le défunt dans son voyage.
Il faut toujours avoir le Livre des Morts dans sa poche pour, au cas où, on rencontre un bus de face. Pas que l'on se retrouve désemparé devant la porte fermée de la mort.
Mon rayonnement éclaire tout être ressuscité qui, cependant qu'il passe dans le royaume des morts, cherche son chemin péniblement à travers la région des ténèbres.
L'âme qui parle est ici aux prises avec des mondes dont l'homme moderne a perdu depuis longtemps le contact. On peut même dire que ce que l'âme du défunt décrit ici de façon très objective, c'est d'abord un plan de conquête, de colonisation très matérielle de l'au-delà. Mais en même temps, le livre des morts des anciens Égyptiens est une sorte de guide à l'usage des candidats à l'initiation.
Pour trouver votre chemin dans le royaume des morts, tournez trois fois à gauche au rond-point d'Anubis.
Que le grand dieu Chou, dont l'éternelle durée est la demeure, me fasse comparaître devant lui, que mes voyages à travers l'au-delà puissent en paix se poursuivre, que je traverse le firmament et admire les splendeurs dont le rayonnement m'éblouit.
prenez le boulevard du sortir du jour en prenant garde de ne pas tomber nez à momie sur un démon.
Puissais-je, à l'égal d'un oiseau, planer dans les airs et contempler, jour après jour, rassembler près de rats, les esprits sanctifiés.
Vous êtes arrivé dans le royaume des morts. Garez-vous sur la place livraison.
Karl Richard Lepsius, philologue et archéologue allemand, va apprendre l'égyptologie en 1830 à Paris, auprès du successeur de Champollion, Jean-Antoine Lettrone. Ces érudits du 19e siècle ont tous le même parcours. Les humanités en Europe consistaient à apprendre le latin, le grec et aussi l'arabe et le persan. La route de l'Orient est maintenant fortement convoitée. Après l'expédition d'Égypte de Bonaparte, dont l'unique but était de couper la route des Indes aux Anglais, on s'aperçoit de l'importance géostratégique de ce Moyen-Orient qui est la porte de l'Asie et de toutes ses richesses. Napoléon s'était embarqué pour sa campagne d'Égypte avec une armada de savants, de géographes, de dessinateurs et d'architectes dans le seul but de retrouver les traces de l'antique canal des pharaons, le père du canal de Suez, et de le remettre en état afin d'avoir accès à la mer Rouge. Finalement, ces savants vont exhumer bien plus que cela en ramenant avec eux des exemplaires de cette écriture mystérieuse qui sera déchiffrée par Champollion une vingtaine d'années après l'expédition de Napoléon. Grâce à lui, Karl Richard Lepsius va déchiffrer un papyrus, le livre pour sortir au jour, un guide qui amène les défunts à sortir des ténèbres pour voyager dans la barque du dieu soleil Ré vers la lumière éternelle. C'est la vision occidentale qui va traduire à tort le livre pour sortir au jour en Totenbuch, le livre des morts.
Scars that can't be seen. I've got drama, can't be stolen. Everybody knows me now.
just like me.
David Bowie, le sublime Lazarus, qu'il a enregistré avec des putains de musiciens de jazz, il faut le dire quand même.
André Manoukian, Les routes de la musique, sur France Inter.
Et voilà que l'on découvre sur des papyrus pouvant mesurer plus de 20 mètres de long une véritable bande dessinée sacrée qui raconte une histoire fantastique, une odyssée personnelle qui concerne chaque défunt dans son voyage vers l'au-delà. Le premier danger sur la longue route qui mène au paradis que les Égyptiens décrivaient comme étant un champ de roseaux, le premier danger, c'est l'attaque des démons. Alors on doit réciter très haut une formule adéquate qui les effraye et les repousse.
Sueyarumtup, sumaket bebaya, imati dosupiski setsuyeya tuyeya tuye.
En Afrique, en Asie, dans beaucoup de sociétés, on pose des masques grimaçants à l'entrée des maisons pour éloigner les mauvais esprits. En musique, on utilise de violents coups de cymbales pour les effrayer. Vous ne regarderez plus un batteur avec les mêmes yeux. Il existe même une formule pour éviter aux défunts de mourir une seconde fois. Le voyage dans l'au-delà n'est décidément pas de tout repos. L'âme du défunt accomplit en fait un véritable parcours initiatique au cours duquel elle va subir des épreuves. Elle va même devoir travailler. Oui, il faudra labourer et cultiver les champs des dieux. Les prêtres, qui géraient le business de la mort, avaient tout prévu. En option, ils proposaient des statuettes de serviteurs magiques, les Oujbeti, chargés d'accomplir les corvées à la place du défunt.
Les centres commerciaux, ce n'est pas une invention du 19e siècle. Loin de là.
L'hypermarché au bout de la route est toujours ouvert.
Bonjour, je voudrais une place bien chaude au royaume des morts, s'il vous plaît.
Toute la journée, ces portes automatiques coulissent dans un sens ou dans un autre. Accueil et relâche tout un flot humain.
Bonjour, je voudrais 10 formules magiques pour le prix d'une.
Les caddies débordent.
Bonjour, je voudrais des bandelettes costaudes pour faire ma momie.
Les tailles courantes sont déjà parties, donc c'est un petit handicap. Si on a une taille standard, on n'arrive pas à trouver tout. Mais bon, il reste quand même du choix. Pas des choses trop ringardes, c'est déjà ça. Il faut fouiner, il faut avoir le temps.
Et les humains tournent en rond avec le temps, l'espace et la consommation.
Posez vos articles sur la balance.
17,70 s'il vous plaît, madame.
Si le défunt était un aristocrate et qu'il n'avait jamais travaillé dans sa vie terrestre, on n'allait pas le faire bosser dans la mort tout de même. C'est qu'il risquerait de se blesser. Alors, on lui fournissait des domestiques, représentés par des statuettes d'Oujbeti que l'on plaçait autour de la dépouille ou, à défaut, que l'on dessinait dans le chapitre 6 du Livre des Morts. Dans l'au-delà, ces serviteurs magiques feraient le job pour le défunt. Les prêtres avaient tout prévu. Le livre des morts était même noté. Ils y avaient inclus des commentaires faits par les défunts façon TripAdvisor. Du genre, cette formule magique est vraiment excellente. Elle a bien marché quand je me suis fait attaquer par un méchant monstre à l'accent américain portant une perruque blonde avec des mains partout comme des pieuvres. Je donne la note de 1 million de fois bon.
Protect
Un des plus beaux exemplaires de ces papyrus d'une importance capitale puisqu'il garantissait aux morts protection et talisman dans le monde de l'au-delà est le papyrus d'Ani. Ani était un scribe, comptable des offrandes divines de tous les dieux, chef des greniers des seigneurs d'Abydos, scribe des offrandes divines des seigneurs de Thèbes. Il vivait vers 1300 avant Jésus-Christ. Sa femme s'appelait Toutou. Elle était chanteuse d'Amon. Non, ça n'est pas un groupe de rock, c'est le dieu du soleil. Et ce titre était régulièrement porté par les dames de haut rang dans le Nouvel Empire. Sur le papyrus, elle est figurée tenant deux instruments de percussion, le sistre et la ménate. Le sistre, l'instrument sacré égyptien, était fait d'un cadre de bronze ou de cuivre de forme oblongue tenu par un manche dans lequel on enchâssait des tiges sur lesquelles on embrochait des coquilles de fruits ou des rondelles métalliques qui s'entrechoquaient quand on secouait le manche. Le ménate était un grand collier de perles à contrepoids qu'on utilisait comme une crécelle. Ces deux instruments étaient ceux de la déesse Hathor, déesse de l'amour, de la beauté, de la musique, de la maternité et de la joie.
Sous forme de vache peut apparaître la déesse Hathor.
Hathor est la déesse qui nous intéresse. Elle réunit amour et musique.
Je vous ai toujours dit que la musique c'est sexuel et vice-versa.
Oui André, oui.
Protectrice des défunts pour qu'elle les fasse renaître à la vie éternelle, mais aussi grande maîtresse de l'amour que les Grecs identifièrent à leur Aphrodite, Hathor fut célébrée au temps pharaonique, notamment aux vendanges et lors du retour massif des eaux du Nil, gonflées par les pluies africaines.
Hathor est une des déesses les plus populaires et importantes durant tout le long de l'histoire de l'Égypte antique.
Bah forcément qu'elle est populaire, c'est la déesse de l'amour, de la musique et de la joie.
Oui André, oui.
Au temps pharaonique du Nouvel Empire, les fêtes civiles, religieuses ou funéraires étaient accompagnées de concerts, la plupart du temps par des femmes. Le son des harpes, des luttes, des doubles hautbois, des tambourins étaient scandés par les claquements de mains et qui rythmaient les danses. Les chants et les beuveries animaient les maisons de la bière, que l'on pourrait qualifier de bordel aujourd'hui.
Ah ouais ? Ça peut aussi être ça, la combinaison de l'amour et de la musique.
Le fait que Toutou, la femme d'Annie, porte ses instruments, garantissait à son défunt mari, Annie, qu'il ait de la musique et de la joie pour l'accompagner dans son parcours. Annie, scribe royal, faisait partie de l'aristocratie et il avait, à ce titre, droit à des funérailles somptueuses. Si les Égyptiens croyaient en la vie éternelle, l'âme du défunt ne pouvait vivre dans l'au-delà que si l'on conservait sa momie. C'est pourquoi l'embaumement était capital, qu'il devait être fait dans les règles de l'art et qu'il pouvait parfois durer jusqu'à 272 jours.
There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. When I hear that trumpet sound, I'm gonna rise right out of the ground. Ain't no grave can hold my body down. Well, look way down the river, and what do you think I see? I see a band of angels, and they're coming after me. Ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. Well, look down yonder, Gabriel. Put your feet on the land and see. But Gabriel, don't you blow your trumpet till you hear from me. There ain't no grave can hold my body down. Ain't no grave can hold my body down. Meet me, Jesus, meet me. Meet me in the middle of the air. And if these wings don't fail me, I will meet you anywhere. Ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. Well, meet me, mother and father. Meet me down the river road. And mama, you know that I'll be there when I check in, my Lord. Ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down.
Comment fait-on la mort en musique ?
Comment fait-on l'amour en musique ? Ah non, comment fait-on la mort ? Ah oui, comment fait-on le mort ? Alors on va se placer du point de vue de ceux qui restent, puisque les morts ne sont plus là pour en parler. Donc on va évoquer la tristesse de ceux qui font leur deuil. La tristesse en musique, vous le savez, ça s'exprime avec le mode mineur, cette fameuse tierce qui est diminuée d'un demi-ton. Si elle est majeure... Là, j'exprime plutôt quelque chose de joyeux. Et il suffit que je la diminue d'un demi-ton, la tierce, pour que j'ai le sentiment de la tristesse. Alors, prenons l'arpège de Do mineur, simplement en égrenant l'accord parfait, comme ça, regardez. Chose maintenant dans le monde majeur. Regardez comme ça chante et comme c'est le contraste entre la vie et la mort qui est, grosso modo, et d'une manière peut-être un petit peu grossière, le contraste entre un mode majeur et le mode mineur. Pourquoi grossière ? Parce qu'il y a énormément de subtilités. Un mode mineur, ça n'est pas simplement la tierce qui est diminuée, ça peut être aussi la sixte qui est minorée d'un demi-ton. Et à ce moment-là, pour rattraper ma gamme, je peux passer par la note sensible. Et là, j'ai cet orientalisme qui fait partie de ma gamme mineure. Et là, ce qui va nous amener à faire des exercices de tristesse. On va faire la cadence parfaite. La cadence parfaite, vous le savez, c'est le deuxième degré, Ré mineur, suivi du cinquième degré, Sol, septième, avec la résolution sur le Do. Eh bien, le deuxième degré, je vais le minorer encore plus, c'est-à-dire que je vais lui diminuer sa quinte. Et là, au lieu d'avoir un accord de Ré, comme ça, je vais avoir, écoutez, un accord qu'on dit demi-diminué, et puis l'accord de Sol, et puis, au lieu de résoudre sur un accord de Do majeur, je résous sur un accord de Do mineur. Je suis mineur sur toute la ligne. Je recommence. Ré mineur, quinte bémol, Sol septième. Et puis, à la place de Do majeur, Do mineur. Ça vous rappelle pas quelque chose ? Voilà l'accord de Ré mineur, quinte bémol. Les feuilles mortes, avec ça, si on évoque pas la mort, mais d'une manière extrêmement romantique, bien sûr. Alors, la cadence qu'on appelle mineure, elle me permet de moduler d'une manière incessante. C'est-à-dire que le premier accord d'une cadence, de la fameuse cadence 2-5-1, en jazz qu'on nomme 2-5-1, est souvent mineur. Et là, comme je finis sur un accord mineur, je peux enchaîner et chaque fois, je me retrouve avec un cycle qui peut être extrêmement harmonieux et que beaucoup de compositeurs utilisent dans le jazz. Michel Legrand en fait une de ses grandes spécialités. Ça me permet de moduler d'une manière hyper naturelle, puisque le dernier accord se retrouve naturellement comme étant le premier de la cadence qui va suivre ensuite. Si je fais une cadence normale en majeur, Ré mineur, Sol, Do majeur, là, je suis coincé, j'ai bien résolu. Et maintenant, s'il faut que je reparte, il faut que je fasse à nouveau l'accord de Do mineur pour venir ici. Et puis là, il faut que je reparte sur mineur. Alors que si je fais ma cadence mineure qui se résout sur un accord mineur, j'ai un mouvement sans fin. Et là, on est vraiment dans l'histoire de la mort qui dure l'éternité. Une éternité qu'on va traduire par un mouvement sans fin. Mais c'est pas triste, hein ? Régulièrement comme ça, repérez dans vos accords une petite cellule. Maintenant qu'on possède cette cadence mineure, qu'on répète sans fin, on va adjoindre à la main droite une petite cellule, on la repère bien. Si je pars sur un Ré mineur, je vais partir du troisième degré. Du Ré qui va être donc un Fa. Et puis je monte tout simplement. Voilà. OK. 3, 4, 5, 4. Et puis je vais transposer la même chose. À partir d'accords tristes, je peux m'exprimer, puis aller sur le contraste.
C'est-à-dire je monte en mineur et tout d'un coup, je fais la tierce majeure. Vous avez vu la lumière qui vient de la même manière que le vrai titre du livre des morts, c'est le livre pour sortir au jour. Oh yeah!
Les routes de la musique. André Manoukian sur France Inter.
Il n'y a pas que des monstres dans l'au-delà des Égyptiens. Les défunts ont aussi des dieux bienveillants pour les accueillir, parmi lesquels Anubis, le dieu à tête de chacal, le fils fortuit d'Osiris et de Nephthys. Anubis, qui était le garde du corps d'Isis, est le guide des morts. S'il est représenté avec une tête de chacal, c'est que ceux-ci vivaient en bordure du désert, près des tombes des pauvres dont ils déterraient les cadavres. On veut croire qu'ainsi, le pauvre défunt dont les ossements étaient dispersés était lui aussi, en quelque sorte, pris en charge par Anubis. Anubis accompagne le mort sur la barque du fleuve, dans le monde inférieur, jusqu'à la salle du jugement. Dans le livre des morts, un des plus importants chapitres porte sur le rituel de l'ouverture de la bouche. Il s'agit de l'ouverture symbolique de la bouche du défunt qui retrouve tout d'un coup la parole, mais aussi la vue et l'ouïe. En fait, toutes les facultés vitales qui ont cessé après sa mort. Et dès cet instant, il peut entendre les prières qui sont dites, il peut sentir les fumigations des aliments qu'on fait près de son corps, il peut voir enfin les images du livre des morts pour s'en aider dans son voyage dans l'au-delà. Il doit aller jusqu'à la salle du jugement, et s'il est jugé digne, alors lui est offert le chemin vers le but ultime, les champs des roseaux, ou champs des offrandes, le paradis dans lequel il pourra séjourner pour l'éternité.
Ouvrez la bouche.
Par la cérémonie de l'ouverture de la bouche, on conférait aux idoles la parole et le souffle.
Arrivé à la grande finale de nos vies, on se demande si on va être l'élu ou pas.
Qu'en est-il pour les couleurs du jury ? Rouge, bleu, rouge, rouge.
Ah non, mais pourquoi ? Je veux aller courir éternellement dans un champ de papyrus magique.
Putain, cette chanson, mon pote, on l'a entendue 200 000 fois. On était au karaoké de Saint-Julien, Molin Molette, là, ce soir.
Je peux réessayer ?
Qu'est-ce que tu nous proposes là-dessus ? Rien, rien, rien. Et en plus, tu chantes faux. Là, non, là, non.
Non ? Allez, quoi. André ?
Bon, en attendant, le défunt doit affronter de nombreuses épreuves avant le paradis. Toutes les créatures monstrueuses qu'il doit affronter, comme ces coléoptères géants et nécrophages, viennent du chaos du monde. La création du monde, la transformation du chaos en cosmos, du désordre en ordre, a eu lieu sur une île où règne un ordre juste. Mais la majeure partie de l'univers demeurait dans le chaos et était donc irrationnelle.
Trick of the sun.
Voilà, ainsi s'achève cette émission. La semaine prochaine, suite et fin du parcours initiatique dans l'au-delà des Égyptiens. En attendant, nous, sur Terre, nous étions enregistrés par Élise Christophe, nous étions réalisés par Fanny Beauvion, nous étions mis en musique par Muriel Pérez et nous étions guidés par la voix céleste d'Elsa Denac. À la semaine prochaine.